Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'histoire de France pour les nuls, dans sa quatrième édition en grand format, est un ouvrage de vulgarisation historique de Jean-Joseph Julot. Il propose un parcours chronologique très large, depuis les peuplements anciens du territoire jusqu'aux périodes contemporaines, en replaçant les événements français dans leur cadre européen et mondiaux. Son objectif n'est pas de défendre une thèse historique unique ni de remplacer une étude universitaire spécialisée, il vise plutôt à fournir des repères solides, à clarifier les enchaînements entre les époques et à rendre intelligibles des institutions, des conflits et des transformations sociales, souvent réduits à quelques dates scolaires. Fidèle à l'esprit de la collection Pour les Nuls, le livre privilégie une écriture accessible, des explications directes et une organisation conçue pour faciliter la consultation. Cette quatrième édition actualise la perspective jusqu'à l'histoire récente. Elle s'adresse ainsi à ceux qui souhaitent reconstruire une vision d'ensemble de l'histoire de France sans isoler les grands personnages des forces politiques, économiques et culturelles qui façonnent le pays. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, des origines de la Gaule à la France, construire des repères sans confondre territoire et nation. L'un des apports essentiels de l'ouvrage consiste à commencer avant l'existence de la France comme État et comme nation. La Gaule antique, la conquête romaine, les migrations de peuples germaniques et la formation des royaumes francs ne sont pas traitées comme une simple préhistoire menant mécaniquement au pays actuel. Elles permettent de comprendre qu'un territoire, des populations, des langues et une autorité politique ne coïncident pas spontanément. La romanisation laisse des cadres administratifs, urbains et culturels durables, tandis que la christianisation contribue à organiser les sociétés et à légitimer les pouvoirs. Avec les Mérovingiens puis les Carolingiens, l'analyse des dynasties sert surtout à éclairer la fragilité de l'autorité centrale et l'importance des fidélités personnelles. Le partage de l'Empire carolingien aide ensuite à situer l'émergence progressive d'un espace occidental distinct, sans faire croire qu'une France pleinement constituée apparaît soudainement. Cette mise en perspective est utile car elle corrige les récits téléologiques. L'histoire nationale n'est pas une ligne continue allant des Gaulois à la République. Elle résulte de recompositions successives, de frontières mouvantes et de relations constantes avec les voisins européens. Le lecteur obtient ainsi les bases nécessaires pour comprendre pourquoi l'unification politique française a été lente, disputée et inachevée durant des siècles. Deuxièmement, la lente consolidation de l'État monarchique face aux pouvoirs féodaux et aux rivalités européennes, le livre met en évidence le caractère graduel de l'affermissement capétien. Au début de la dynastie, le roi ne contrôle directement qu'un domaine limité et doit composer avec de grands seigneurs plus puissants que lui. L'enjeu n'est donc pas seulement la succession des souverains, il est de comprendre les instruments par lesquels une monarchie étend son influence, impose davantage sa justice, renforce son administration et agrandit son territoire. Les conflits avec les Plantagenets, puis la guerre de Cent Ans, prennent ici une valeur structurante. Ils ne relèvent pas uniquement d'une opposition nationale déjà achevée entre Français et Anglais. Ils concernent aussi les droits dynastiques, les possessions féodales et la compétition pour l'exercice du pouvoir. La guerre, coûteuse et destructrice, accélère néanmoins la montée d'une fiscalité plus régulière, d'une armée plus durable et d'institutions royales capables d'agir au-delà du domaine initial. Cette séquence permet également de saisir le rôle ambigu des crises épidémies, révoltes et défaites révèlent les limites du pouvoir, mais pousse aussi à réorganiser les moyens de gouvernement, en reliant les règnes, les guerres et les évolutions administratives. Julot donne un sens concret à la notion de centralisation, sans présenter celle-ci comme un processus uniforme ou sans résistance. Troisièmement, de la Renaissance à l'ancien régime absolutisme royal, société d'ordre et contrainte du pouvoir, la période moderne est abordée à travers la montée en puissance de la monarchie, mais aussi à travers les tensions qui empêchent de réduire l'ancien régime à un pouvoir royal illimité. La Renaissance introduit des transformations culturelles et politiques, tandis que les guerres de religion montre combien l'unité confessionnelle et l'autorité du souverain peuvent être contestées. La restauration de l'ordre monarchique ne fait pas disparaître ces fragilités, elle les encadre par des compromis, par l'affirmation de la raison d'État et par le développement administratif. L'évocation de la monarchie absolue, notamment sous Louis XIV, invite à distinguer l'affichage de la souveraineté et les réalités du gouvernement. Le roi concentre des pouvoirs considérables, mais il dépend de relais locaux, de finances difficiles, de privilèges établis et d'une société divisée en ordres. Noblesse, clergé et tiers état ne disposent ni des mêmes droits, ni des mêmes charges fiscales, ce qui rend la question de l'équité politique et sociale progressivement plus aiguë. Les guerres, la cour et les grands travaux ne sont donc pas de simples signes de prestige, ils pèsent sur les ressources du royaume et exigent une administration croissante. Cette lecture aide à comprendre que la crise de la fin du XVIIIe siècle s'enracine dans des déséquilibres institutionnels et fiscaux anciens, aggravés par les évolutions intellectuelles et économiques. Quatrièmement, Révolution, Empire et XIXe siècle, apprentissage conflictuel de la citoyenneté politique. L'ouvrage accorde une place centrale à la rupture révolutionnaire, car elle transforme durablement les principes de légitimité politique, le droit et le rapport entre les citoyens et l'État. La Révolution française ne se laisse pas enfermer dans l'image d'un moment homogène, elle associe l'abolition de privilèges. L'affirmation de droits, la refonte administrative, la guerre extérieure et des conflits internes extrêmement violents. Comprendre cette pluralité est indispensable pour éviter d'opposer abstraitement les idéaux de 1789 aux épisodes de la Terreur. L'Empire prolonge certains acquis révolutionnaires, notamment par la consolidation d'institutions et de normes juridiques, tout en rétablissant une forte concentration du pouvoir autour de Napoléon. Le XIXe siècle apparaît ensuite comme une période d'instabilité constitutionnelle, restauration monarchique, monarchie de juillet, Deuxième République. Second Empire et Troisième République traduisent des désaccords persistants sur le suffrage, l'ordre social, la place de l'exécutif et la souveraineté populaire. Cette succession de régimes ne signifie pas une absence de progrès institutionnel. Elle explique au contraire pourquoi la République parlementaire finit par s'ancrer, après de nombreuses crises, dans les pratiques politiques françaises. Le livre relie ainsi les changements de régime aux transformations de la société, industrialisation, urbanisation, essor de l'école. Question ouvrière et élargissement progressif de la participation civique. En dernier lieu, guerre mondiale. Reconstruction et Zaïon République, une histoire française inscrite dans le monde, pour les périodes les plus récentes. Le livre rappelle que l'histoire de France ne peut être comprise à l'échelle strictement nationale. Les deux guerres mondiales placent le pays au cœur de bouleversements européens et mondiaux, avec des conséquences humaines, politiques et territoriales profondes. La défaite de 1940, le régime de Vichy, la résistance et la libération constituent des repères indispensables pour examiner les fractures de la mémoire nationale, sans réduire la période à un récit consensuel. Après 1945, la reconstruction économique et sociale s'accompagne d'une redéfinition du rôle de l'État, d'une intégration européenne croissante et de la fin progressive de l'empire colonial. Les guerres de décolonisation, et particulièrement la guerre d'Algérie, pèsent sur les institutions et contribuent au contexte de naissance de la Ve République. Celle-ci instaure un exécutif renforcé, tout en conservant un cadre démocratique représentatif qui structure encore la vie publique. L'histoire récente est également reliée à des transformations de longue portée, évolution des mœurs, nouvelles mobilisations sociales, mutations économiques, immigration et interrogation sur l'identité collective. En achevant le parcours sur ces enjeux, Julot évite de présenter le présent comme l'aboutissement naturel du passé. Il montre plutôt que les institutions et les débats contemporains sont hérités de choix, de conflits et d'interdépendances internationales qui restent ouverts à l'interprétation. En conclusion, l'histoire de France pour les nuls convient particulièrement aux lecteurs qui veulent retrouver ou acquérir une armature chronologique fiable adulte éloignée de l'enseignement d'eux. L'histoire, étudiant ayant besoin de repères généraux, candidat à certains concours. Ou lecteur curieux cherchant à mieux situer les références historiques présentes dans le débat public. Son bénéfice pratique tient à sa capacité à relier des événements souvent connus de nom. Conquête romaine, guerre de Cent Ans, révolution, empire, guerre mondiale. 20 républiques aux mécanismes qui leur donnent leur portée. Le lecteur ne reçoit pas seulement une liste de règnes et de dates. Il peut suivre la formation territoriale et institutionnelle du pays, les changements de régime et les tensions sociales qui les accompagnent. L'ouvrage se distingue des manuels scolaires très synthétiques par son ambition de couvrir l'ensemble de la trajectoire française dans un langage de vulgarisation assumé, et des grandes synthèses universitaires par sa lisibilité et sa fonction d'orientation. Cette position implique aussi une limite féconde, il faut le lire comme une porte d'entrée. Non comme le dernier mot sur des sujets aussi débattus que la révolution, la colonisation ou les mémoires de guerre. La quatrième édition offre surtout une vue d'ensemble actualisée et organisée, utile pour construire des questions plus précises et choisir ensuite des lectures spécialisées. Sa force est de restituer la continuité des problèmes historiques sans effacer les ruptures ni isoler la France de son environnement européen et mondial. Si vous souhaitez soutenir Jean-Joseph Julot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.